Chapitre 42. Un jour, Martin se sentit esseulé. Il était en pleine santé et n'avait rien à faire. La cessation de ses activités littéraires et studieuses, la mort de Brissenden et la perte de Ruth avaient creusé un immense vide dans sa vie, que ne pourraient jamais combler la bonne chère, les grands cafés et les cigarettes égyptiennes. Certes, les mers du Sud l'appelaient, mais il avait le sentiment d'avoir encore une carte à jouer aux États-Unis. Deux livres de lui étaient en cours de publication, et il en avait d'autres en réserve. Il y avait de l'argent à gagner, et il attendrait d'avoir amassé un petit magot avant de prendre le large. Il connaissait une vallée en bordure de mer dans les Marquises qu'il pourrait acquérir pour 1 000 $ chiliens. Le terrain s'élevait d'une baie en fer à cheval jusqu'à des pics couronnés de nuages et couvrait une dizaine de milliers d'acres. Il y avait des fruits en abondance, des poules sauvages, des cochons sauvages, même du bétail sauvage, et sur les hauteurs, des chèvres sauvages pourchassées par des chiens sauvages. Tout y était sauvage. Aucun humain n'y vivait. Et il pouvait acheter le tout, la vallée et la baie, pour 1 000 $ chiliens. La baie, telle qu'il s'en souvenait, était magnifique, assez profonde pour accueillir les plus gros navires, et si sûre que le directoire du Pacifique Sud l'avait recommandé comme le meilleur mouillage à 100 000 à la ronde. Il achèterait un yacht, une de ces petites goélettes avec un accastillage en cuivre qui filait comme des dauphins, et ferait le commerce du copra et des perles, d'une île à l'autre. La vallée et la baie seraient son quartier général. Il bâtirait une paillote de patriarches comme celle de Tati et aurait tout un bataillon de serviteurs à la peau sombre. Il régalerait le directeur de la factorerie de Taiohae, les capitaines des navires marchands et la crème des flibustiers du Pacifique Sud. Sa maison serait toujours ouverte et il recevrait comme un prince. Et il oublierait tous les livres qu'il avait lus, oublierait le monde entier et ses illusions. Mais pour ce faire, il devait d'abord remplir son bas de laine en Californie. L'argent commençait déjà à tomber. Pour peu qu'un de ses livres fût un succès, il pourrait ventiler toute sa pile de manuscrits. Il pourrait aussi rassembler ses nouvelles et ses poèmes en recueil, et alors, à lui la vallée, la baie et le yacht. Il n'écrirait plus. La chose était décidée. Mais, en attendant la publication de ses livres, il fallait bien s'occuper. Il était temps de se réveiller et de sortir de la torpeur à laquelle le condamnait son insouciance. Il nota, un dimanche matin, que le pique-nique annuel des maçons devait avoir lieu ce jour-là à Shellmound Park, et à Shellmound Park, il se rendit. Il avait si souvent fréquenté ces fêtes populaires par le passé qu'il eut l'impression de revivre des sensations familières en pénétrant dans le parc. Après tout, il était chez lui au milieu de ses ouvriers. Il était né parmi eux, avait grandi parmi eux, et c'était bon de se retrouver en pays de connaissance après une période d'errance. « Eh mais c'est Marthe !» s'écria quelqu'un. Il sentit une main amicale se poser sur son épaule. « Où que t'étais pendant tout ce temps ? En mer ? Allez, viens boire un godet !» Et il se retrouva dans sa vieille bande avec quelques absents et ici ou là une tête nouvelle. Les gars n'étaient pas des maçons, mais, comme avant, ils allaient à tous les pique-niques dominicaux pour guincher, se bagarrer et se payer du bon temps. Martin trinqua avec eux et se sentit redevenir humain. Quelle sottise de les avoir quittés! Il eût bien plus sûrement trouvé le bonheur en restant parmi eux et en laissant de côté les livres et les gens haut placés. Pourtant, la bière lui sembla moins bonne que naguère. Elle n'avait plus le même goût. Brissenden lui avait gâché ces saveurs-là, se dit-il, en se demandant si les livres ne lui avaient pas gâché pareillement la compagnie de ses amis de jeunesse. Il décida de ne pas bouder son plaisir et se dirigea vers le pavillon de danse. Il y rencontra Jimmy, le plombier, au bras d'une grande blonde qui s'empressa de l'abandonner au profit de Martin. Pardi, c'est reparti comme avant, expliqua Jimmy à la bande qui se moquait en voyant Martin virevolter sur la piste avec la blonde. Et je m'en fous, tiens. Je suis trop content de le revoir. Regardez donc comment qu'il valse. On dirait qu'il a des roulettes. On peut pas en vouloir aux filles. Mais Martin rendit la blonde à Jimmy, et tous trois, avec une demi-douzaine de copains, contemplèrent les couples qui tournoyaient, riaient et plaisantaient. Chacun se faisait une joie du retour de Martin. Et, comme aucun de ses livres n'avait encore été publié, ce n'était pas une joie factice. Il l'aimait pour lui-même. Il se sentait comme un prince revenant d'exil, et son cœur solitaire refleurissait dans la chaleureuse spontanéité qui l'entourait. C'était un grand jour, et il était en verve. Et puis, il avait de l'argent plein les poches, et, comme autrefois, Lorsqu'il rentrait d'une traversée avec sa paix, il jeta ses sous à tout vent. Sur la piste de danse, il aperçut Lizzie Connolly dans les bras d'un jeune ouvrier. Et, plus tard, en faisant le tour du pavillon, il la retrouva assise à une table. La surprise passée, après les salutations, il l'entraîna dans le parc, loin du vacarme et des flonflons. Dès l'instant où il parla, elle fut à lui. Il le savait. Elle le lui montra par l'humilité concertée de ses regards, les mouvements caressants de son corps altier et la façon dont elle buvait ses paroles. Elle n'était plus la grisette qu'il avait connue, c'était une femme à présent, et sa beauté s'était épanouie. Elle était moins provocante, peut-être, plus maîtrisée, mais le même feu couvait toujours sous la braise. « Une beauté, une vraie beauté, » murmura-t-il, admiratif. Et il savait qu'elle lui appartenait, qu'il lui suffisait de dire « Viens » pour qu'elle le suivît partout au monde. À l'instant même où cette pensée se formait dans son esprit, il reçut un choc violent sur le côté de la tête qui l'assomma presque. C'était un coup de poing, dirigé par un homme tellement aveuglé par la colère qu'il avait manqué la mâchoire visée. Martin se retourna en chancelant et vit le poing revenir à la vitesse d'un projectile. Il esquiva et le coup partit dans le vide, entraînant l'agresseur dans son élan. Martin riposta du gauche, percutant l'homme de plein fouet. Celui-ci tomba de côté, se releva et se jeta en avant. En voyant son visage distordu par la haine, Martin se demanda ce qui pouvait avoir ainsi excité sa colère. Mais ce n'était pas le moment d'avoir des états d'âme et il décocha un direct du droit en y mettant tout le poids de son corps. Le gaillard bascula en arrière et s'affala comme une masse, tandis que Jimmy et les autres gars de la bande accouraient vers eux. Martin était tout excité. Ses jeunes années étaient de retour, avec la danse, la castagne et la rigolade. Sans cesser de surveiller son adversaire du coin de l'œil, il observa Lizzie. D'habitude, les filles poussaient des cris quand les gars se frottaient. Elle ne criait pas. Elle suivait la scène avec saisissement, haletante, légèrement penchée en avant, une main sur sa poitrine, les joues rouges, ébahie et admirative. L'homme s'était relevé et se débattait contre les bras qui le retenaient de toutes parts. « Elle attendait que je revienne !» clamait-il à qui voulait l'entendre. « Elle m'attendait, et v'là l'autre gus qui vient me la souffler. Lâchez-moi, nom de là. Je m'en vais lui régler son compte. »« T'as perdu la boule ?» dit Jimmy, qui aidait les autres à le contenir. « Ce type est Marthe Eden. C'est un fameux cogneur, et il te bouffera tout cru si tu fais le mariole avec lui. Il peut pas me la souffler comme ça. Il a étendu Flynn Dutchman, ça te dit quelque chose ?» continua Jimmy. « Et en 5 rounds avec ça, tu tiendrais pas 1 minute contre lui. » L'information sembla assagir le jeune énervé qui jaugea Martin du regard. « Il en a pas l'air, » fit-il, railleur, mais sans conviction. « Ouais, c'est aussi ce que pensait Flynn Dutchman, » dit Jimmy. « Allez, viens, laisse tomber. Il y a des tas d'autres filles, viens !» Le gaillard se laissa reconduire vers le pavillon, et la bande suivit le mouvement. « Qui sait ?» demanda Martin à Lizzie. « Et à quoi ça rime tout ça ?» Déjà, la fièvre du combat, si prenante et si durable autrefois, était retombée. Il était trop introverti désormais. Il n'avait plus le cœur assez simple pour vivre pleinement une existence aussi primitive. « Oh, c'est personne, » répondit Lizzie. « Il me tenait compagnie, c'est tout. J'avais pas le choix, tu comprends ?» ajouta-t-elle après un silence. « Je commençais à me sentir seule. Mais je t'ai jamais oublié. » Elle baissa la voix et regarda droit devant elle. « Je le plaquerai pour toi n'importe quand. » Martin considéra son profil. Sachant qu'il n'avait qu'à tendre la main pour l'accueillir, il se demanda à quoi lui servait toute sa grammaire en cet instant et, pensif, oublia de lui répondre. « Tu l'as drôlement remis à sa place, » reprit-elle en riant. « Ce n'était pas une mauviette, tu sais, » reconnut-il généreusement. S'il ne l'avait pas emmené, il m'en aurait sûrement fait voir. Qui c'était la demoiselle avec qui je t'ai vu ce soir-là ? Demanda-t-elle tout à coup. Oh, une connaissance. Ça fait si longtemps déjà, murmura-t-elle, songeuse. 1 millier d'années. Mais Martin n'insista pas sur le sujet et préféra détourner la conversation. Ils déjeunèrent au restaurant, où il commanda du vin et les mets les plus chers. Puis il la fit danser. Il ne dansa qu'avec elle jusqu'à l'épuisement. Il savait y faire, et elle tourbillonna dans une sorte d'extase, la tête contre son épaule, en priant le ciel que cela ne finît jamais. Plus tard dans l'après-midi, ils allèrent sous les arbres et, comme au bon vieux temps, elle s'assit et il s'allongea près d'elle sur le dos, la tête posée sur ses genoux. Il rêvassa et somnola, tandis qu'elle lui caressait les cheveux, éperdue d'amour, en regardant ses paupières closes. Ouvrant soudain les yeux, il lut le tendre aveu sur son visage. Elle ferma les siens, les rouvrit, puis le regarda fixement. « J'ai pas eu d'amoureux pendant tout ce temps, » dit-elle d'une voix à peine audible, comme si elle eût chuchoté un secret. Au fond de son cœur, Martin sut que c'était la miraculeuse vérité. Une grande tentation s'empara de lui. Il avait le pouvoir de la rendre heureuse. Parce qu'il avait dénié son propre bonheur, devait-il dénier le sien aussi? Il pouvait l'épouser et l'emmener vivre avec lui dans son palais de feuillage aux Marquises. La tentation était forte. Mais plus fort encore était l'interdit de sa conscience, car, malgré lui, il avait gardé foi en l'amour. Ses années de libertinage étaient loin. Il ne pouvait ni les ressusciter, ni se réformer. Il avait changé, bien plus qu'il ne l'avait cru jusqu'alors. « Je ne suis pas fait pour le mariage, Lizzie, » dit-il avec légèreté. La main qui jouait dans ses cheveux s'immobilisa un court instant, puis reprit sa douce caresse. Il vit son visage se durcir, mais elle ne s'était pas rembrunie. Elle était toujours aussi resplendissante et tendre. « C'est pas ce que je voulais dire, » commença-t-elle. Puis elle laissa sa phrase en suspens. « De toute façon, je m'en fiche. »« Je m'en fiche, » reprit-elle. « Je suis fière d'être ton amie. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux ?» Martin s'assit. Il lui prit la main, avec chaleur mais sans passion, et cette chaleur-là la glaça. « N'en parlons plus, » dit-elle. « Tu es une grande et noble femme. C'est moi qui devrais être fier de te connaître, et je le suis, je le suis. Tu es pour moi un rayon de soleil dans un monde très sombre, et je veux être honnête avec toi. Je te demande pas d'être honnête. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Tu peux me jeter dans la boue et me piétiner, et t'es le seul homme au monde qui peut faire ça, » ajouta-t-elle d'un air de défi. « Je ne me suis jamais laissé marcher sur les pieds depuis que je suis gosse. Mais c'est bien pour ça que je ne le ferai pas, » dit-il d'une voix douce. Tu es si généreuse que je ne peux pas me conduire en égoïste avec toi. Je ne me marierai pas et je ne veux pas aimer sans me marier, bien que je ne m'en sois pas privée dans le passé. Je regrette d'être venue ici et de t'avoir rencontrée, mais le mal est fait maintenant. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Mais écoute-moi, Lizzie. Je ne peux pas te dire tout ce que je ressens pour toi. C'est bien plus que de la tendresse. « Je t'admire, je te respecte. Tu es magnifique et magnifiquement bonne. Mais ce ne sont que des mots, tout ça. Et je voudrais faire quelque chose pour toi. Tu as eu la vie dure, laisse-moi te la rendre plus facile. » Une lueur de joie pétilla dans les yeux de Lizzie, puis s'estompa. « Je suis sûr d'avoir pas mal d'argent d'ici peu, un beau paquet. » Il abandonnait tout, sa vallée, sa baie, son palais de feuillage et sa belle goélette blanche. Quelle importance après tout. S'il voulait prendre la mer, il pourrait toujours s'enrôler sur le premier bateau venu. Il l'avait assez souvent fait. Je voudrais te le donner. Il doit bien y avoir quelque chose qui te fasse envie, je ne sais pas, aller au collège ou à l'école professionnelle. Tu aimerais peut-être faire des études pour devenir sténo. Je peux arranger ça. Ou alors, si ton père et ta mère sont encore en vie, je pourrais leur monter un commerce, n'importe quoi, tout ce que tu veux. Tu n'as qu'à me demander et je me débrouillerai. Elle ne répondit pas. Elle ne bougea pas. Elle regardait droit devant elle, les yeux fixes et secs, mais avec une boule dans la gorge qui se devinait tellement que Martin eut mal pour elle. Il regretta ses paroles. Ce qu'il lui offrait était si vulgaire, de l'argent, en comparaison du don qu'elle lui faisait. Il lui offrait une chose superflue dont il pouvait se départir sans souffrir, tandis qu'elle s'offrait elle-même, avec ses disgrâces, ses turpitudes, ses péchés et toutes ses espérances. « Ne parlons pas de ça, » dit-elle en toussant pour masquer son émotion. Elle se leva. « Viens, rentrons. Je suis fatiguée. » La journée était finie. Les joyeux de riz étaient presque tous repartis. Mais quand Martin et Lydie quittèrent le couvert des arbres, ils trouvèrent la bande qui les attendait. Martin comprit immédiatement ce que cela signifiait. Il y avait de la bagarre dans l'air. Les copains étaient là pour lui servir de garde du corps. Ils franchirent les grilles du parc, suivis à quelque distance d'une seconde bande, les gars que le galant et conduit de Lydie avaient rassemblés pour se venger de Martin. Plusieurs policemen, flairant le grabuge, patrouillaient à proximité. Ils firent monter les deux bandes séparément dans le train de San Francisco. Martin prévint Jimmy qu'il descendrait à la station 16e rue, où il prendrait le tramway pour Oakland. Lydie était très calme et semblait se désintéresser de la menace qui grondait. Quand le train s'arrêta à la station, on pouvait déjà voir le tramway qui attendait et le conducteur agitait impatiemment la cloche. « Le voilà, » dit Jimmy. « Cours. On se charge de les retenir. Maintenant, vas-y, fonce !» La bande adverse, momentanément déconcertée par la manœuvre, ne tarda pas à se ruer vers le tramway. Les bonnes gens d'Oakland, passagers tranquilles, remarquèrent à peine le jeune homme et la jeune fille essoufflés qui montèrent en voiture et prirent place devant sur la plateforme. Ils ne firent pas le rapprochement entre ce couple et Jimmy qui, sautant sur le marchepied, cria au chauffeur « Appuie sur le champignon, vieux, et tire-toi en vitesse !» À ces mots, Jimmy pivota et les passagers le virent écraser son poing sur la figure d'un homme qui arrivait en courant pour essayer de monter à bord. Mais bientôt d'autres poings s'abattirent sur d'autres figures, sur toute la longueur de la voiture. Tel était l'accueil que Jimmy et sa bande, juchés sur la première marche de chaque portière, réservaient à la troupe des assaillants. La cloche résonna, la garde héroïque, ayant repoussé la meute, descendit en marche, et le tramway s'éloigna, laissant le combat se poursuivre aux abords de la station. À aucun moment, les passagers médusés n'imaginèrent que le jeune homme tranquille et la belle ouvrière assise sur la plateforme étaient la cause de ces échauffourées. Martin avait apprécié la bagarre, qui lui avait permis de revivre ses émotions d'antan. Mais le charme ne dura pas. Une immense tristesse l'envahit. Il se sentait très vieux, 100 fois plus vieux que ses insouciants compagnons de son passé. Il avait fait du chemin, un trop long chemin pour revenir en arrière. Leur façon de vivre, qui avait été autrefois la sienne, ne le tentait plus aujourd'hui. Tout le décevait. Il était devenu un étranger. De même que la bière tout à l'heure, leur camaraderie lui semblait insipide. Il y avait trop de distance entre eux, trop de livres les séparaient. Il s'était exilé. Il avait voyagé dans le vaste royaume de l'intellect jusqu'au point de non-retour. Mais il restait humain et son besoin de compagnie demeurait inassouvi. Il n'avait pas trouvé de nouveau foyer. La bande ne le comprenait pas plus que sa propre famille ou que la bourgeoisie. Non plus que cette fille à côté de lui, qu'il respectait au plus haut point, ne pouvait comprendre les raisons de ce respect. Et sa mélancolie se teinta d'amertume. Arrange-toi avec lui, conseilla-t-il à Lydie, au moment de la quitter, debout devant le taudis où elle vivait, dans le quartier de Marquette. Il faisait allusion au jeune homme dont il avait usurpé la place aujourd'hui.
Je peux pas. Pas maintenant, dit-elle.
Allons donc.
Tu n'as qu'à siffler pour qu'il accourt.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit-elle simplement. Alors, il sut ce qu'elle avait voulu dire. Comme il s'apprêtait à lui souhaiter bonne nuit, elle se pencha vers lui. Elle le fit sans provocation, sans chercher à séduire, mais l'âme en peine, implorante et humble. Touché au cœur, vaincu par sa vraie nature, il la prit dans ses bras et lui donna un baiser. Et le baiser que lui rendirent les lèvres de Lydie fut le plus fervent qu'aucun homme eût jamais reçu.
« Bon sang, » fit-elle en sanglotant, « je pourrais mourir pour toi. Je pourrais mourir pour toi. »
Elle s'arracha brusquement à ses bras et monta les marches en courant. Il sentit ses yeux lui picoter.
« Martin Eden, » se dit-il, « tu n'es pas une brute, et tu es un piètre Nietzschéen. Il ne tient qu'à toi de l'épouser et de remplir de bonheur son pauvre cœur. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est un beau gâchis.
Un pauvre vieux clochard explique ses pauvres vieux ulcères, marmonna-t-il en se rappelant son Henley.
La vie, je crois, est une mauvaise farce ratée.
Oui, c'est ça, une mauvaise farce ratée.